laisser les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes, elle lave et le désarme ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime, ils ont des fleurs arrosées. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance, donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent, n'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble, ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les.
Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance, poil à gratter. 161e émission. Oh là là, 161e, nous sommes le 18 juin 2025. Et cette émission sera consacrée à des albums et encore des albums. Des albums récents et des albums déjà anciens, ça sera un florilège. Alors, dans les albums récents, il y aura Le Torche-cul de Rabelais, illustré par Pef, aux éditions MOOC. Alors là, non, pas du tout récent, ancien, pardon, excusez-moi. C'est un éditeur qui n'existe plus, qui a pris sa retraite, et je crois qu'il y a une autre maison d'édition qui a repris les éditions MOOC. Ça vient de 2009. Ensuite, il y aura Alix et le pouvoir des mots. Ça, c'est un livre récent des éditions La Martinière, je crois bien. Oui, c'est ça, La Martinière Jeunesse. Je vous donnerai les détails plus tard. Ensuite, il y aura Le Marchand de Sommeil. Celui-là, il est relativement récent. Il vient du Salon du Livre de 2024. J'espère que nous aurons le temps pour Didier Danax, La Fête des Mères, puisque nous n'avions pas eu le temps, quand il était invité de l'émission, Didier Danax, de lire ça, parce que c'est un peu long. Et alors là, c'est un livre de collection que j'ai, puisque c'est les Cirrhos Souris Noires, et que ça valait 35 francs. Et oui, 35 francs, il n'y a même pas l'année, c'est fou. Et pour les musiques, eh bien, il y aura deux disques, la suite de la compilation Mon petit loup du label Irfan, qui est sortie en octobre 2024. Nous n'avions pas eu le temps de finir, et vraiment tout est à prendre dans ce disque qui est vraiment magnifique. Le label Irfan, c'est le label des Ogres de Barbac, bien sûr, que nous affectionnons. Et nous allons commencer par une triste nouvelle. C'est la mort du papa des petits loups du jazz. Et comme c'est l'année du Brésil, eh bien, l'un des disques qu'il a fait, je crois que c'est un des derniers, je ne me rappelle plus, 2013, ça, c'est Bossa. Le papa des petits loups du jazz, c'était Olivier Caillard. Olivier Caillard était donc un musicien qui était aussi à la direction vocale et artistique. Il a fait chanter des enfants. Et il a eu d'autres fonctions, mais bon, c'est pas ça qui est mon objet aujourd'hui. Mon objet, c'est tous les disques des petits loups du jazz pendant pas mal d'années. Une chorale qui était pour celui-là à Montpellier, où il y avait 23 enfants de 9 à 13 ans. Et c'est une petite merveille, les petits loups du jazz. Donc nous allons faire un hommage, c'était imprévu et c'est une triste nouvelle. Nous allons commencer par diffuser trois titres d'Olivier Caillard dans cette compilation. Ça, c'est Bossa, des petits loups du jazz. Nous allons commencer par C'est pas beau, ça. Ah, j'oubliais de vous dire que nous avons un enfant pour raconter, pour lire et puis pour un petit peu à la technique. Voilà.
Bonjour.
Tu peux y aller pour les petits loups du jazz. Non, c'est là. Là. Non, non, non.
Oui.
Dis-moi, c'est pas...
Donc, c'était Les Petits Loups du Jazz, une chanson d'Olivier Caillard qui vient de mourir, trop jeune. Et les trois chansons de sa composition, c'est bien précisé dans ce disque au label Enfance et Musique. Les paroles ont été construites, enfin inventées avec la participation des enfants. C'est un vrai pédagogue. La musique, la direction musicale et les paroles avec les enfants. Les enfants sont réellement des créateurs. Les Petits Loups du Jazz, c'était une très très grande aventure. Ce disque date de 2013, pardon. Et nous en écouterons encore deux titres qui sont composés par Olivier Caillard. Nous allons passer à un classique de la littérature. Avec un classique de l'illustration, c'est Pef, que tout le monde connaît. Son impertinence, sa joyeuse façon de dessiner. Et le livre, eh bien, c'est très étonnant, c'est Le Torche-cul de Rabelais, donc aux éditions MOOC. Ça valait 14 euros, mais maintenant, je ne sais pas ce que c'est devenu. Alors, voilà, il appelle, un appel de Rabelais et de Pef. Enfants très illustres et vous, parents attentionnés, découvrez comment fut inventé un génial torche-cul par le jeune Gargantua, fils du géant Grand Gousier. Un album à mettre entre toutes les mains, signé de Messire, Rabelais et Pef. Mise en couleur par Geneviève Ferrier. Voilà, c'est une collection des éditions MOOC qui n'existe plus, mais qui a été probablement rachetée par une autre maison d'édition. Et je vais vous lire la présentation, et c'est l'enfant à côté de moi qui lira le texte de Rabelais. François Rabelais est né en 1495, c'est-à-dire à la toute fin du XVe siècle, il a donc vécu au XVIe, près du village de Bourgueil, en Indre-et-Loire. Bourgueil, ça c'est pour les parents, il y avait du bon vin, il y a du bon vin là-bas. Il a été à la fois écrivain, philosophe, médecin, curé, et d'abord au service de la gaieté et de l'impertinence. Il a inventé des personnages burlesques comme le géant Grand Gousier et son fils Gargantua. Son ambition est de faire rire le lecteur, car, dit-il, le rire est le propre de l'homme. Aujourd'hui, les jeunes veulent lire Rabelais. Il est temps pour eux de découvrir le glorieux épisode du torche-cul, extrait de La vie très horrifique du grand Gargantua. Et je vais laisser l'enfant à côté de moi lire.
Gargantua, depuis les 3 jusqu'à 5 ans, fut nourri et éduqué en toute discipline par le commandement de son père. Il passa ce temps comme les petits enfants du pays, c'est à savoir, à boire, manger et dormir, à manger, dormir et boire, à dormir, boire et manger. Le reste du temps, il se vautrait dans la boue, se barbouillait le nez, se salissait la figure et éculait ses souliers, bâillait souvent aux mouches, aimait à courir après les papillons. Il pissait sur ses souliers, il chiait en sa chemise, il se mouchait à ses manches, il morvait dans sa soupe et patrouillait par tout lieu et buvait en sa pantoufle et se frottait ordinairement le ventre d'un panier. Il aiguisait ses dents sur un sabot, se lavait les mains dans le potage, se peignait d'un gobelet, s'asseyait entre deux chaises le cul à terre, il se grattait ou ne le démangeait point, se chatouillait pour se faire rire. Les petits chiens de son père mangeaient en son écueil, c'est cruel. Lui de même mangeait avec eux, il leur mordait les oreilles, il lui égratignait le nez. Il leur soufflait au cul, il lui léchait les bas d'Igouins.
Les bas d'Igouins, oui.
Sur la fin de la cinquième année, Grand Gosier, retournant de la guerre, visita son fils Gargantua. Là, il fut réjoui comme un tel père pouvait l'être devant un tel enfant. En l'embrassant et l'étreignant, il l'interrogea de petits propos périls, en diverses sortes. Et il but sans compter avec lui et ses gouvernantes, auxquelles, par grand soin, il demanda si elles l'avaient tenue propre et nette. À ce, Gargantua fit réponse qu'il s'y était pris de telle façon quand tout le pays n'était garçon plus propre que lui. Comment cela, dit Grand Gosier. J'ai, répondu Gargantua, par longue et curieuse expérience, inventé un moyen de me torcher le cul, le plus seigneurial, le plus excellent, le plus efficace que jamais on ait vu. Lequel, dit Grand Gosier. Comme je vais vous le dire présentement, dit Gargantua. Je me torchai une fois d'un cache-nez de velours d'une demoiselle et le trouva très bon, car sa douceur soyeuse me causa au fondement une volupté bien grande. Une autre fois, des cache-oreilles d'un bonnet de satin cramoisi, mais la dorure d'un tas de saletés de perles qui étaient m'écorchèrent tout le derrière. Ce mal passa, me torchant d'un bonnet de page bien emplumé à la Suisse. Puis, fit un temps derrière un buisson, j'y trouvai un chat belliqueux et je m'entorchai. Mais ses griffes me déchirèrent tout le périnée. Ce dont je guéris au lotement, me torchant les gants parfumés de sa mère.
De ma mère ?
De ma mère. Puis me torchai au drap, à la couverture, au rideau, d'un coussin, d'un tapis de jeu, d'une serviette, d'un mouchenet, d'un peignoir. En tout, j'y trouvais grand plaisir. Certes, dit Gangsil, mais lequel torche-cul trouves-tu meilleur ? J'y étais, dit Gargantua, et bientôt vous saurez le fin mot de l'histoire. Je me torchai ensuite d'un couvre-chef, d'un oreiller, d'une pantoufle, d'une gibecière.
C'est un sac pour mettre le gibier.
Ah oui, gibecière, d'un panier, mais oh, le malplaisant torche-cul. Puis d'un chapeau, et notez que des chapeaux, les uns sont ras, d'autres à poil, les autres de velours, les autres de taffetas, c'est un tissu. Ok, merci. Les autres de satin, le meilleur de tous est celui de poil qu'il a, car il absorbe bien la matière. Oh, dit Grand Gosier, que tu as bon sens, petit garçonnet. Un de ces jours, je te ferai passer docteur en gai savoir. Par Dieu, car tu as de raison plus que d'âge. Or, poursuis ce propos torche-culatif, je t'en prie. Je me torchai ensuite d'une poule, d'un coq, d'un poulet, de la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, d'un cormoran, d'une sacoche d'avocat, d'un passe-montagne, d'une coiffe. Mais pour conclure, je dis et maintiens qu'il n'y a de meilleur torche-cul qu'un oiseau bien duf.
Duveteux.
Et m'en croyez sur mon honneur, car vous sentez au trot du cul une volupté mirifique, tant par la douceur de ce duvet que par la chaleur tempérée de l'oison, laquelle facilement est communiquée un boyau culier et autres intestins jusqu'à venir à la région du cœur et du cerveau.
Et du cerveau.
Oui. Ces propos entendus, le bonhomme Grand Gosier fut béat l'admiration, considérant le haut sens et le merveilleux entendement de son fils Gargantua. Il déclara à ses gouvernantes : je vous dis qu'en ce seul propos que j'ai tenu présentement devant vous à mon fils Gargantua, je comprends que son talent participe de quelque divinité. Tant que je le vois aigu, subtil, profond et serein, il parviendra à un degré souverain de sagesse s'il est bien éduqué.
Et voilà, c'est fini. Donc, c'était un extrait de Rabelais, Le Torche-cul, aux éditions MOOC en 2013. Ça valait 14€. C'est peut-être trouvable dans une autre édition. Délicieusement éduqué, illustré par PEF. Et maintenant, encore un titre d'Olivier Caillard.
Sing, 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 sing
Radio Libertaire, des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter. Nous sommes le 18 juin 2025 et la 161e émission des cailloux dans l'engrenage est dédiée à des albums divers et variés. Et là, nous allons lire à deux voix, avec l'enfant qui est à côté de moi, Le Marchand de Sommeil, texte et illustration de Luna Granada. La première édition était en 2017, et puis là, c'est une édition plus récente. Et je crois que ça, la maison d'édition, c'était anciennement l'Avant-Courrier, et maintenant, ça se trouve à La Tête Ailleurs Édition. Le Marchand de Sommeil. Lynn, c'est le nom de l'héroïne du livre, habite tout en haut d'un long escalier. Depuis la lucarne de sa chambre, elle peut voir tous les immeubles de son quartier.
Quand la nuit tombe, elle tombe tôt en hiver. Elle aime observer les habitants qui s'activent sans leur petite case éclairée. Mais depuis quelque temps, les fenêtres s'allument de moins en moins. La plupart d'entre elles ont été murées.
Dans la rue, elle a écouté les gens commenter. Encore le marchand de sommeil! Elle a déjà entendu parler du marchand de sable qui laisse tomber du sable sur les yeux des enfants pour qu'ils s'endorment. Mais jamais du marchand de sommeil.
Cette nuit-là, Lynn s'est réveillée en sursaut. Depuis sa fenêtre, elle aperçoit dans la brume des silhouettes qui s'activent en silence sur les toits. Elles transportent sur leur dos de gros sacs remplis de briques. Lynn ne distingue pas les traits de leur visage. Ces ombres obéissent aux ordres d'un homme inquiétant aux allures d'ogre. Lynn murmure un peu effrayée, le marchand de sommeil.
Le lendemain matin, Lynn s'approche de sa fenêtre. Une autre façade a été condamnée. Elle imagine les habitants profondément endormis derrière les fenêtres cimentées à la hâte. Inquiète, elle se prépare pour aller à l'école.
Le soir, Lynn est de retour chez elle. Elle a froid dans sa chambre. Le vent souffle fort dehors et s'insinue en sifflant par les interstices de sa fenêtre qui ferme mal. La pluie se met à crépiter sur les toits et des gouttes d'eau commencent à perler sur le plafond. Lynn se recroqueville dans son lit, remontant les couvertures sur son nez.
Malgré le crissement des girouettes qui tournent, telles des manèges fous, elle finit par trouver le sommeil.
Le lendemain matin, les paupières lourdes, Lynn se dirige vers sa lucarne. Elle y constate qu'un nouvel immeuble plus proche a été muré. Sera-t-elle la prochaine sur la liste? Vont-ils bientôt condamner son logement et la faire sombrer dans un profond sommeil? Elle s'en va à l'école, l'air préoccupée.
À la nuit tombée, enveloppée dans une couverture, Lynn se hisse hors de sa chambre. Elle se retrouve sur le toit et se cache derrière une grande cheminée. Elle ne tarde pas à entrevoir les silhouettes de la veille. Les hommes sont très rapides, cimentant, clouant, scellant, murant. Et le marchand de sommeil agite ses bras de géant en donnant des ordres.
À l'écart, la silhouette d'un homme plus fin, plus léger, les suit sans se faire voir. Un trousseau de clés cliquette à sa ceinture. Il frôle la petite Lynn. Chut! Après le passage du marchand de sommeil, il rouvre les portes fermées, libérant les habitants, en leur faisant signe, un doigt sur la bouche, de ne pas faire de bruit. Chut!
Songeuse, Lynn regagne sa chambre. Le froid est intense, mais très fatiguée, elle parvient à s'endormir.
Elle est brutalement réveillée par une odeur âcre et charbonneuse.
Une épaisse fumée noire envahit sa chambre et la fait tousser. Elle se précipite vers sa fenêtre pour échapper aux flammes qui commencent à lécher le bas de sa porte.
Alors qu'elle s'élance sur les toits pieds nus, elle est attrapée au vol et emportée loin de son immeuble ravagé par les flammes.
Elle reconnaît dans sa fuite le cliquetis des clés, puis entend dans un souffle « Ne crains rien, je suis le veilleur de nuit qui parcourt la ville et ouvre les portes fermées. »
Les pieds de Lynn effleurent le nouveau sol, Autour d'elle, les lampadaires éclairent faiblement une petite rue calme à côté d'un chantier. Le veilleur de nuit détache une clé de son trousseau et la donne à Lynn.
Lynn s'approche de la première maison et essaye la clé dans la serrure. La porte s'ouvre. Elle sent une douce chaleur émaner de l'intérieur. Elle franchit le seuil et se retourne et voit la silhouette du veilleur qui s'évapore déjà dans la nuit. Avec les petits loups du jazz, le morceau d'Olivier Caillard, nous avons passé le numéro 1 et le numéro 3, un dernier titre d'Olivier Caillard, le numéro 9. Ah oui, c'est pas tout à fait d'actualité, ça parle d'un beau matin d'hiver.
Inonder la terre, la terre tout à l'envers.
Radio Libertaire des Cailloux dans l'Engrenage, numéro 161 déjà. Un numéro sans invité, sauf un enfant, bien sûr, et qui se consacre à différents albums de toutes les époques. Tout à l'heure, hors micro, l'enfant me disait à quel point il avait aimé le Marchand de sommeil, non seulement pour les illustrations, mais pour le côté mystérieux de l'histoire, c'est vrai. Tu veux rajouter des choses ou non,
non,
c'est ce que
non,
tu m'as dit. Ouais, c'est et je suis d'accord. Le Marchand de sommeil qui vaut 15 euros. Ouais, et qui est de Luna Granada et qui a changé de maison.
C'est quelle édition?
La Tête Ailleurs édition. À l'époque de mon livre, c'était l'avant-courrier.
Ah oui, c'est pour ça que vous.
C'est pour ça que j'ai écrit là. Ouais. Voilà. Et là, c'est la petite pastille du Salon du Livre. Et nous allons continuer avec un album qui, pour moi, est très important, même si les illustrations ne sont pas aussi fortes que les autres, parce que, bon, elles sont
simples.
Pardon ?
Simples ?
Elles sont simples, oui. Elles sont plus enfantines, elles sont... Bon, mais c'est une affaire de goût, elles sont jolies aussi, hein, bien sûr. Le livre est d'Amélie Cordonnier, les illustrations sont de Tiffany Cooper, c'est aux éditions La Martinière Jeunesse, ça vaut 15 euros. C'est un album engagé qui met en garde contre la violence verbale et le harcèlement. C'est un album, à mon avis, très important. Nous allons le lire à deux voix aussi. Je vous lis là la quatrième de couverture.
D'ailleurs,
ce soir...
Tu vois, non, c'est juste... J'ai été étonnée, mais le Marchand de sommeil n'a pas de quatrième de couverture.
Oui, le Marchand de sommeil n'a pas de quatrième de couverture. Quelquefois, il n'y en a pas. C'est comme ça. Ce soir, le cartable d'Alix pèse lourd. Pardon. Et son cœur aussi. Cœur et cartable font 100 kilos. Non, une tonne plutôt, à cause d'un mot très gros, énorme même. C'est un livre sur les blessures invisibles qu'infligent trop souvent les mots et qui rappelle l'importance de les choisir avec soin, à l'école comme à la maison. Et là, donc, nous allons commencer la lecture. C'est paru en 2024. Alix cueille tout. Et tant pis si sa salopette traîne sur le sable dans les flaques ou la gadoue. Elle cueille les coquillages à marée basse, les herbes que les grandes personnes disent folles, les plumes, les cailloux et les bâtons sur le chemin de la maison, les marrons quand c'est la saison, les fleurs sauvages que personne n'a plantées mais qui poussent même entre les pavés. Depuis toute petite, Alice cueille tout.
Elle sait bien qu'il faut dire ramasser pour les coquillages, les plumes, les cailloux, les bâtons et les marrons, que ce soit ou non la saison. Pourtant, Alix préfère les cueillir. Elle trouve ce mot plus joli et tellement plus doux. Peut-être parce qu'il ressemble à accueillir. Pourquoi seules les fleurs auraient-elles droit à ce traitement de faveur ?
Hélas ! Depuis la rentrée et l'arrivée à l'école d'un nouveau, un nouvel enfant, hein, Alix récolte aussi d'affreux mots, parfois petits, souvent gros, mais toujours vilains et idiots. Il l'assomme comme quand il lui tombe dessus, comme un grand coup de massue. Il arrive qu'Alix ne soit pas directement visée et que ses mots atterrissent à ses pieds ou bien juste à côté. Mais il l'éclabousse quand même et il la peine par ricochet.
Pas question de laisser traîner ces mots dégoûtants. Alix les imagine aussi mauvais pour la planète que pour la santé. Et puis quelqu'un pourrait marcher dedans, se salir ou pire, se blesser. Alors Alix les récupère à l'aide d'un mouchoir blanc et les fourre dans sa trousse.
Et là, nous voyons les enfants dans la classe à l'école.
Oui.
Mais ce soir, le cartable d'Alix pèse lourd, très lourd, et son cœur aussi. Cœur et cartable font 100 kilos, non, une tonne plutôt, à cause d'un mot, un mot très gros, énorme même. Alix n'a pas réussi à l'emballer dans un mouchoir et ne le répétera jamais, même pas dans le noir.
Au dîner, Alix n'a pas faim. La faute à ce mot tranchant comme un couteau, qui lui a fendu le cœur et coupé l'appétit. Maman s'inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ? Impossible de lui répondre. Alix a un nœud dans l'estomac. Et en travers de la gorge ce vilain mot très gros qui l'empêche de parler.
Alors, maman l'encourage. Allez, Alix, raconte-moi. Il faut toujours dire ce qu'on a sur le cœur. Surtout quand ça fait mal. Alix compte dans sa tête. 1, 2, 3. Puis vide de son sac d'un coup. Le vilain mot très gros sort de sa bouche, tombe sur la table et l'entraîne avec lui tous les autres mots qui manquent de renverser la carafe.
Oh, ma chérie, c'est terrible, s'écrie maman en prenant Alix dans ses bras. Je comprends que tu sois choquée. Tu sais, chuchote-t-elle après un long câlin, Lucas ne se rend peut-être pas compte de ce qu'il dit. Ah bon, tu crois ? Alix n'y avait pas pensé.
Au moment de se coucher, maman propose d'écrire à la maîtresse. Bonne idée, s'exclame Alix qui lui tend son carnet de correspondance avant de se raviser. Je me sens beaucoup mieux depuis que je t'ai parlé. Alors pour le mot, on peut attendre un peu.
Le lendemain, cœur et cartable tout léger, une vraie plume, même pas froissée, soulagée, Alix se sent d'attaque pour la récré. Mais voilà soudain Lucas dans le couloir. Alix hésite à tourner le dos pour l'éviter. Puis finalement, le salue comme si de rien n'était. Il a l'air surpris, mais sourit. Un double check suffit pour faire la paix.
Quelques jours plus tard, alors que maman la coiffe, Alix perd son calme devant le miroir. Yeux noirs et rouges aux joues. Oh, tu l'as encore raté cette queue de cheval. Un coup trop à gauche, un coup trop à droite. Mais t'es bête ou quoi?
Le mot bête n'est pas bien long.
Il ne comporte que 4 lettres. B, E accent circonflexe, T, E. Mais il devient énorme en s'abattant sur maman. Ce mot, bête, jaillit de sa tête. Alix le regrette instantanément. Trop tard, hélas, il a blessé maman. Elle se tait. C'est bien pire que si elle la grondait.
Alors Alix se confond en excuses. Pardon maman, pardon, désolée, tellement désolée. Un ange passe, puis un drôle de sourire se pose sur les lèvres de maman. Tu vois ma chérie, cela arrive à tout le monde de dire des choses qu'on ne pense pas. C'est bien de s'excuser, cela apaise le cœur que l'on a peiné. La meilleure façon de ne pas blesser ce qu'on aime, c'est de cueillir les mots avec soin.
Et voilà, c'est fini. Alice, c'est le pouvoir des mots.
Alix.
Alix, oui, c'est vrai, je dis Alice alors que c'est Alix. C'est un album intelligent et fort pour sensibiliser les enfants au potentiel blessant des mots, même les plus anodins. Alors, qui est l'autrice ? J'ai la feuille de presse là à côté de moi. Elle est journaliste littéraire, Mélie Cordonnier. Elle a écrit différents bouquins et ils ont tous été traduits en plusieurs langues. Et elle a créé une collection chez Flammarion, Retour chez soi. C'est son premier album jeunesse.
J'avoue en fait qu'au départ, je n'avais pas bien lu avant l'émission parce qu'on lit les livres pour les préparer, je n'avais pas bien lu. Mais là, je m'en rends compte que vraiment, le texte est vraiment...
Important.
Oui. très bien.
Et finalement, l'illustration correspond bien avec l'histoire parce qu'elles sont fraîches, colorées, simples, compréhensibles. Et le texte est tellement important qu'il ne faut pas qu'il soit en retrait.
Et aussi, j'aime bien la couverture où on la voit en train de cueillir des fleurs, mais on voit la tige et au lieu d'avoir des pétales, on voit des lettres. Enfin, voilà. Parce que Alix, le pouvoir des mots.
Elle cueille des mots. Alors, l'illustratrice, depuis 2012, a travaillé depuis plusieurs années dans le monde de l'art et de la mode. C'est Tiffany Cooper. Elle collabore, elle fait de la pub. Elle expose ses dessins dans différentes villes. Et elle a illustré 7 romans graphiques et 4 livres jeunesse. Voilà, c'est un livre important pour discuter avec les enfants, surtout s'ils s'emportent, que ce soit à l'école ou à la maison, mais même quelquefois les enseignants, les adultes qui s'emportent et qui perdent leur sang-froid et qui ne se rendent pas compte des mots. Nous allons passer maintenant, justement... Attends. Nous allons passer à la suite de la compile « Mon petit loup » du label Irfan, sorti en octobre 2024, qui est un CD de promotion de la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants.
D'ailleurs, je sais, c'est le hasard, mais je viens de me rendre compte qu'en fait, mon petit loup et les petits loups du jazz, ça,
eh ben oui,
ça va bien ensemble.
Eh ben oui, 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 c'est vrai. Et là, c'était un hasard, parce que hélas, Olivier Caillard...
Est décédé. Allez.
Miwa marmaï rak son peau d'un cataracte aux yeux flous. Yantan le chien, le loup, comme qui ir là-haut. Où sonne nos sacs chauffons au bout de son râle, au bout de son râle, au bout de son note. Ton fond, mi bout, mi graphine, mi mort. Mi envale toute mon misère si fond culotte. Ou vépi à moins dit tout. Ou voudrais se manquer tout ça que là pas moins. À moins, marmaille, bonhomme, le loup, tout ça là ensemble. Mi mort pour achat ou un cri. Quand même ça pas l'amour. Donne coup de coin. Dans le béquet, mi mort pour un gras fout de figure, un sel grimace, ça tout ça que mi qu'un voir. Mi chape mon douce,
mi chape mon douce.
Asté à la honte,
mi chape mon douce.
Ou finis you même, trop vitement.
Excuse-moi.
Excuse-moi, l'a pas dire encore.
Excuse-moi.
Excuse-moi, ailleurs dire plus longtemps. Pardon, dis une affaire. Pile en moulin que bas, parlez haut, parlez bas. Le sac chauffonne de gauche, il s'en souffle, le chien il râle. Sous des doigts, maman, il raque son pot, maloya. Pour cap cavali, il s'en mout des yeux, des sautes son bonne cri, un à l'eau. Le silence charge terrible, il rache un rire, il s'accouille fort. Il tira ou par le bas des mots la lave, chapeau de sanda sans alors le port.
Capé, capé, papa, capé, capé, maman. Que mi vomit pas mon cœur, mi relâche pas mon poitrine. Capé, capé, papa. Mon cœur, mi relâche pas mon poids.
vomit pas mon cœur, mi relâche pas mon pot à terre. Kémi vomit pas mon cœur, mi relâche pas mon pot à terre. Kémi vomit pas mon cœur, mi relâche pas mon pot à terre. Kémi vomit pas mon cœur, mi relâche pas mon pot à terre.
Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Vous écoutez la 161e émission de Des cailloux dans l'engrenage. C'est une radio sans Dieu ni maître, ni publicité, ni nationalisme. Et cette émission du 18 juin 2025 est sans invité, mais avec des chansons et des albums. Et là, cet album n'est pas du tout récent. C'est la collection Syros Souris Noire, et c'est la première. Là, ça doit être vraiment collector, parce que ça coûtait 35 francs. Alors, me demandez pas combien ça coûte maintenant dans les nouvelles éditions. Et c'est Didier Danax qui a été invité dans cette émission. Des beaux souvenirs d'invités.
Moi aussi, j'étais là.
Oui, la fête des mères, dessinée par Pim. Alors là, c'est tout à fait autre chose. C'est plutôt une collection qui est destinée aux pré-ados, à partir de 10-12 ans, aux enfants plus grands, disons. Voici la quatrième de couverture. Et voici Jeff aux premières loges d'un braquage de banque à Aubervilliers. La banque où sa mère est caissière. Il ne pense qu'à une chose, rejoindre sa mère, la protéger de son corps. « Arrête, mon garçon !» crie une femme, « il va tous nous tuer !» Mais Jeff n'a pas peur. Il traverse la salle d'un pas assuré. Donc, c'est par l'auteur de Meurtre pour mémoire, Gallimard, série noire, donc c'était il y a vraiment très longtemps. Et alors, quelle est la collection Souris Noire de Syros ? C'est pas série noire, ça c'est pour les adultes, et souris noire, ça c'est pour les grands enfants et préados. Les meilleurs auteurs de polar s'attaquent aux enfants, et ce n'est que justice. Pourquoi les parents seraient-ils les seuls à avoir le droit de frémir aux histoires noires? C'est si bon d'avoir peur quand on sait que la paix est au bout du livre. Ça peut même encourager à lire jusqu'au mot fin. Alors nous allons continuer notre lecture à deux, et là l'enfant qui est à côté de moi va le découvrir, parce que je sais pas s'il a eu le temps.
Alors,
tu as eu le temps de le lire?
En fait, pour l'émission Didier Danax, on m'a demandé de lire 4 livres.
Oui.
2 de l'édition Souris Noire, et j'avais commencé à lire parce que j'avais aussi plein d'autres livres à lire, et je me rappelle que lui je l'avais préféré à l'autre. Donc l'autre série noire, et aussi il y avait 2 livres qui ne sont pas encore sortis, enfin
qui n'étaient pas sortis
à l'époque. Bah après je sais pas si ils sont sortis, et ça c'est une nouvelle collection, donc toujours de Didier Danax. Et je m'en rappelle en tout cas que j'avais préféré lui, et lui c'était vraiment dans les 4 le préféré.
Ah d'accord, donc voilà un petit coup de cœur. Eh ben bonjour Didier Danax s'il nous écoute. Et voici, je vais commencer. Pour Jeff, il n'existait au monde aucune musique plus belle, plus agréable que cette sonnette électrique qui marquait la fin de sa journée d'écolier. Certains, autour de lui, se bouchaient les oreilles, grinçaient des dents, agacés par la vibration aiguë. Jeff fermait alors les yeux et il écoutait la sonnerie qui résonnait dans les couloirs, grimpait les marches et emplissait bientôt la classe en se cognant au mur.
Tous ses amis qui n'attendaient que ce signal refermaient leur cahier, jetaient à la hâte crayons, gomme et feutre dans les cartables hissés sur les pupitres. Et ce n'était plus que cris et cavalcade. Jeff rouvrait les yeux sur une classe vide et il attendait que les bruits des pas se soient estompés dans l'escalier. Peu à peu, la musique s'éloignait et il essayait de la suivre le plus longtemps possible, là où l'emportait le vent. Quelquefois, la maîtresse venait lui taper sur l'épaule. Jeff haussait la tête vers elle, puis il promenait son regard sur la classe désertée, le tableau effacé et prêt pour une nouvelle journée.
Il se levait enfin et se dirigeait vers le palier. Lentement, tout se jouait là, en descendant les marches. C'est du moins ce qu'il voulait croire. La maîtresse le doublait souvent dans le hall, son paquet de copies sous le bras. « Alors, Jeff, encore le dernier ?» Il se forçait à sourire et pressait un peu le pas. Les images affluaient dans sa tête tandis qu'il traversait la cour. Il imaginait que son père s'arrachait à son fauteuil, éteignait la télé et s'engouffrait dans l'ascenseur. Il le voyait traverser le square de ses longues enjambées qu'il avait, lui, tant de mal à suivre.
En approchant du portail de l'école, Jeff lui accorda même un sursis en le faisant discuter avec un bouliste. Mais il eut beau multiplier les détours, se retourner pour observer les jeux de ceux qui restaient à l'étude, rien n'y fit. Personne ce soir encore ne l'attendait devant l'école.
Il se souvenait, et chaque fois les yeux lui piquaient, qu'avant les vacances de Noël, à 4 heures juste, le camion stoppait à la hauteur de la maternelle dans un interminable crissement des freins. Son père se penchait vers la portière du passager, l'ouvrait d'une poussée et criait pour couvrir le bruit du moteur.
« Dépêche-toi, Jean-François, je gêne. »
Tout le monde l'appelait Jeff, en ne gardant que les initiales de ses prénoms. Seul son père prenait le temps de prononcer les trois syllabes. Jeff se mettait à courir et montait sur le marchepied. Il avait à peine le temps de sentir le souffle chaud des cylindres sur ses jambes que la grosse poigne paternelle le hissait dans la cabine. Nous allons, comme l'histoire est longue, nous allons faire des coupures musicales.
C'est parti, donc on va mettre le numéro 11 de Flavia Coleo et Eyolé. Ça s'appelle Montilou.
Alors, Anouaro, tout à l'heure, c'était du créole réunionnais et là, nous allons le découvrir.
T'en fais pas mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. T'oublieras mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent de Capocadino. Respire la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazon et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs. D'Abraham, c'est encore plus beau qu'on le dit. Y a des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. On veut aller à Rendu et on boira du vin de Moselle. Je t'ai raconté le succès que j'ai eu en jouant les Ganarelles. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. T'oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai voir Liverpool. C'est guirlande de ad hoc et des pays où il y a des poules qui chantent aussi haut que le coq. Tous les livres les plus beaux de Colette, de Marcel Aimé, sont des Rabelais ou de Léo Tour. Je suis sûre que tu vas les aimer. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne plaît pas. T'oublieras, mon petit loup, ne plaît pas. Je t'apprendrai à la Jamaïque, la pêche de nuit au Lamparo. Je t'amènerai faire un pique-nique en haut du Kilimanjaro. Et tu grimperas sur mon dos pour voir le plafond de la Sistine. On sera fasciné au Prado par les Goyas ou les Ménines. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. T'oublieras, mon petit loup, ne pleure pas.
tube des malheurs et les plantaires de Virginie qui ne savent pas qu'il y a un hiver. On en a des choses à voir jusqu'à la Louisiane en fait, où il y a des types qui ont tous les soirs du désespoir plein la trompette. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Oublie-les, les petits cons qui t'ont fait ça. C'est la vie, ne pleure pas. Je t'en supplie, mon petit loup, ne pleure pas.
Radio Libertaire, des cailloux dans l'engrenage, 18 juin 2025. Et là, nous écoutions trois continents. Hein. C'était chanté en français et en africain et par une brésilienne, Favla Coelho. Et lui, c'était Eyo Nle, mon petit loup, du label Irfan, la compilation Mon petit loup, contre les violences sexuelles faites aux enfants.
Donc là, on continue la lecture de La fête des mères.
De Didier Daninx.
Dessiné par Pim. Il y avait toujours un croissant, un pain au chocolat posé sur le tableau de bord, au-dessus des manomètres. Parfois, une poignée de bonbons glanés au hasard des tournées. Jeff embrassait son père et s'emparait de son 4 heures. Alors que... Déjà, le camion s'est lancé sur l'avenue de Victor Hugo en vibrant de toute sa carlingue. Le porte-clés jaune et noir se balançait alors, tel un pendule au bout de la clé de contact.
Un soir, c'était quelques jours après le jour de l'an, le camion ne s'était pas rangé le long du trottoir. La place habituelle, juste après le passage protégé et son flic girouette, était demeurée. Vide. Jeff avait guetté une heure durant, sursautant dès qu'apparaissaient des couleurs jaunes et noires sur les flancs d'une remorque. Vers 5 heures, une voisine le découvrit là, devant l'école, pleurant contre le mur. Elle le prit par la main et l'emmena près de la mairie, dans une banque où travaillait sa mère.
C'est à partir de ce jour que certains mots revinrent plus souvent dans les conversations à la maison. Des mots faciles comme « travail » et « économie », d'autres plus compliqués comme « assédique » et « licenciement ».
Alors « assédique », c'était les mots pour les chômeurs, ce qu'on recevait quand on était au chômage.
La vie n'était vraiment plus comme avant et Jeff sentit les choses plus qu'il ne les comprit. Son père ne sortait pratiquement plus. Il restait bloqué du matin au soir devant la télé, le pouce en embuscade sur les boutons de la télécommande, accrochant un morceau de téléfilm sur la 5. Dès qu'un film se terminait sur une autre chaîne, Jeff devait batailler ferme, revenir à la charge 10-15 fois pour qu'il consente à mettre récré à 2.
Il se fatigua le premier et prit l'habitude, l'école terminée, de venir poser son cartable à la banque, rue Ferragus. Il jouait ensuite seul sur la place du marché, s'abritant sous les stands lorsqu'il pleuvait. Sa mère quittait son travail à 5h30 et ils rentraient ensemble en faisant les courses.
Les jours succédèrent aux jours, les semaines aux semaines, le printemps à l'hiver, sans que rien ne vienne troubler le désordre des choses.
Le grand tribunal.
Et papa,
t'as pas fini la maison, papa. T'as pas rangé le salon, papa. T'as dû perdre la raison. Et papa, t'as oublié les leçons, papa. Pas fourni d'explications, papa. T'as pas demandé pardon.
Ouais, ouais.
Gringole du haut de son piédestal, tombe à rendre folle, à en perdre les pétales des fleurs du mal du grand tribunal.
Et papa, t'as pas fini la maison, papa. T'as pas rangé le salon, papa. T'as dû perdre la raison. Et papa, t'as oublié les leçons. Papa, t'as pas demandé pardon.
Oh, papa.
Jeff dut patienter jusqu'au mois de mai pour que l'événement se produise. La maîtresse les avait aidés à confectionner un cadeau pour la fête des mères. Un dessous de plat constitué de moitié de pince à linge en bois blanc, collé en éventail. Chaque enfant avait signé son chef-d'œuvre à la pyrogravure avant de le vernir au pinceau. Jeff avait également écrit un court poème au dos d'un coloriage.
Il le récitait à haute voix en marchant vers la banque. La terrasse du chien qui fume, c'est un café-bar, occupait une bonne partie du large trottoir. Il fit une pause devant les motos, inclinées sur leurs béquilles. Les chromes lustrés accrochaient le soleil. Il traversa la rue et poussa la première porte en vitre teintée.
Il comprit confusément que quelque chose d'anormal et d'important se passait en ne voyant pas le vigile avec sa casquette engoncée jusqu'aux yeux. Il l'accueillait d'habitude au passage en agitant sa main dans ses cheveux bouclés. Le silence surtout l'alerta. Rien ni personne ne bougeait.
Son regard se porta instinctivement vers la caisse où travaillait sa mère. Elle seule remuait, courbée sur son guichet, et passait d'épaisses liasses de billets à un homme qui les faisait glisser sur le comptoir d'un revers de main pour les enfourner dans un sac poubelle gris.
Il portait un masque de carnaval à l'effigie de Jacques Chirac et serrait un lourd pistolet dans sa main droite. Il le tenait braqué sur le dos du vigile, le canon enfoncé dans le tissu de l'uniforme.
Alors, pour les enfants, Jacques Chirac a été maire de Paris et puis ensuite président de la République. Donc, c'était plutôt une effigie, un masque à l'effigie du président de la République de l'époque. Une dizaine de clients, vraisemblablement surpris au moment du hold-up, s'étaient aplatis contre le mur du fond, le nez collé aux affiches vantant les mérites du système bancaire.
Jeff ne ressentait pas la moindre peur et ne se posait même pas la question du danger. Une seule chose comptait sur lui, rejoindre sa mère, la protéger de son corps, de sa présence. Il s'avança.
Le braqueur cessa d'amasser ses billets. Il tourna la tête en prenant soin d'une pression de son arme de déplacer le vigile pour le garder dans son champ visuel.
Bouge pas, petit. Va dans le coin là-bas avec les autres et retourne-toi contre le mur.
La voix résonnait bizarrement au travers du masque de caoutchouc. Une voix déformée, mais familière. Jeff traversa la salle d'un pas plus assuré, décidé à ne pas tenir compte de la menace. Une femme se détacha du groupe des otages et tenta de le tirer vers elle, implorante.
« Arrête, mon garçon, écoute ce qu'il te dit. Il va tous nous tuer. »
Jeff lévita, fit encore quelques pas et s'immobilisa à 2 mètres du gangster, les yeux rivés au porte-clés qui pendait à la ceinture de l'homme au pistolet. Un porte-clés identique en tout point à celui qui cliquetait au tableau de bord du camion de son père.
Elle m'en a parlé qu'à peine. Derrière ses cheveux longs, toi tu fais pas l'amour, tu fais la haine. Elle ne m'a jamais dit ton nom. Elle m'a juste dit qu'elle était ivre, que tu en avais profité, qu'elle n'aurait jamais voulu te suivre, que tu l'avais forcé, qu'elle ne tenait même plus debout, que sans doute tu l'avais portée. Elle ne se souvient pas de tout, elle ne se souvient pas, mais elle sait. Tu l'as laissé toute nue, ton venin entre ses cuisses et ta puanteur d'inconnu et le bord d'un précipice. Depuis sa folle jeunesse, elle est pas pareille. Depuis sa folle jeunesse, elle est devenue vieille. Et moi, j'arrive pas à comprendre, je sais pas comment tu fais pour prendre ce que tu oses prendre à une femme qui va te dégueuler. Elle se méfie des hommes, leur a bien du mal à nous aimer, à se donner quand elle se donne, à se laisser aller. Et quand je lui dis que je l'aime, je vois la crainte dans son regard. Et quand je lui dis que je l'aime, elle refuse de me croire. Elle m'en a parlé qu'à peine, derrière ses cheveux longs. Elle m'en a parlé qu'à peine, elle m'a jamais dit ton nom.
C'est la rue Quétano dans la compile Mon Petit Loup du label Irfan qui est sorti en octobre 2024, qui est un CD de promotion, un livre-disque d'ailleurs, de promotion de la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants.
Le gamin baissa la tête et se dirigea soudain, docile, vers le groupe des clients auxquels il se mêla. Le bruit régulier des liasses tombant dans le sac plastique reprit. Puis le silence s'installa, déchiré bien après que l'homme se fût enfui par la sonnerie de l'alarme.
Jeff accompagna sa mère au premier étage du commissariat, une sorte de préfabriqué délabré, et l'écouta répondre aux questions d'un jeune inspecteur qui lui fit signer sa déposition avant de la remercier.
Son père n'était pas à la maison et il ne revint que bien après qu'ils eurent fini de manger. Il se précipita directement vers la télé et chercha les informations en pianotant sur la télécommande. Oui.
Le présentateur du journal de la 3 évoqua le hold-up d'Aubervilliers, avouant en une courte phrase que la police ne disposait d'aucune piste sérieuse.
Jeff passa dans sa chambre et pour la première fois depuis des mois, son père s'assit au bord du lit pour l'embrasser. Le gamin lui montra le dessous de plat.
« Regarde ce que j'ai fabriqué à l'école, c'est pour maman.
Je vais lui offrir dimanche pour la fête des mères.
C'est très beau, Jean-François. Tu es un gentil petit bonhomme. Dors maintenant.
Le père s'était relevé et il posait déjà sa main sur l'interrupteur de la lumière.
Dis, papa.
Quoi encore ?
Il revint près du lit pour un dernier câlin.
Jeff tendit le bras vers lui et saisit entre ses doigts minuscules le porte-clés jaune et noir qui se balançait à la ceinture de son père.
Je voulais te dire, papa, maintenant que tu as beaucoup d'argent, tu t'achèteras un camion à toi pour venir me chercher à la sortie de l'école ?
Et voilà, c'était Didier Danax, La fête des mères. Et dans le dessin, l'enfant montre le porte-clés en forme d'abeille à la ceinture du papa. C'est grâce à ce porte-clés que le gamin a reconnu que c'était son père, le coupable du hold-up. Et il n'y a pas de leçon de morale à la fin de cette histoire. C'est vraiment un très beau livre de Didier Danax dans la série Souris Noire, dessinée par Pim. Alors, voilà, il me demande à l'oreille de dire pourquoi il a aimé. Vas-y, dis-le.
Moi, précisément, moi, je l'ai aimé. Bon, déjà, parce que je n'avais pas encore lu. Donc, comme je l'ai dit, je n'avais pas le temps de lire les deux en entier. Mais moi, j'aime bien les trucs de coupables et tout. On recherche qui c'est. Mais là, au début, on commençait un peu à savoir quand même. On se demandait, ah tiens, pourquoi il y a la même abeille ? Et je trouve que c'est assez marrant à la fin, le petit garçon qui demande à son père si cet argent c'était pour qu'il achète un camion pour le chercher à l'école.
Et oui, et le dessin est vraiment important dans cette histoire. C'est pour ça qu'on insiste sur l'abeille, sur le pendentif. Eh bien, merci et merci Didier Danax. Nous allons reprendre la compile Le Petit Loup, et à ta demande, as-tu choisi
la numéro 2 de Oldelaf qui s'appelle Box. Et pas la box, box.
Je manque d'air.
Alors là, c'est moi qui me suis trompée. J'ai confondu mon petit loup avec les petits loups du jazz. Et là, vous avez bien compris que ce n'était pas Old Elaf Box qui va suivre immédiatement après. Mais le dernier titre des petits loups du jazz, ça c'est Bossa, qui s'appelle Planète. C'est une samba composée par Olivier Caillard, qui est mort il y a très peu de temps.
Mais du coup, on l'a quand même laissé parce que...
Parce que c'est beau.
Ah oui, oui. Allez, donc là, on va continuer avec Box d'Old Elaf.
Aïe, j'ai souffert cette tourelle sous ma nuque. Ce combat, quel enfer. Je crois que la boxe, c'est pas mon truc. J'ai vu quelques étoiles sous la phalange du percute. Rien à faire, mais la boxe, c'est pas mon truc. Bon, ok, mon adversaire était bien plus grand que moi. Au moins 30 kilos de plus, je ne faisais pas le poids. Je suis même assez surpris qu'il nous ait mis tous les deux dans la même catégorie. Ça pourrait être dangereux, un combat entre un môme de 10 ans et un type qui s'énerve de temps en temps. J'ai souffert cette tourelle sous ma nuque. Ce combat, quel enfer. Je crois que la boxe, c'est pas mon truc. J'ai vu quelques étoiles sous la phalange du percute. Rien à faire, mais la boxe, c'est pas mon truc. Et pourtant, le type en face, je le connaissais déjà. De temps en temps, c'est cocasse, je l'appelle même papa. Là, je me suis laissé surprendre, il peut s'emporter comme ça. Alors qu'il sait être tendre, même un peu trop quelquefois. Il doit être perdu dans ses sentiments. Ou bien il est hors la loi, tout simplement. J'ai souffert cette tourelle sous ma nuque. Ce combat, quel enfer. Je crois que la boxe, c'est pas mon truc. J'ai vu quelques étoiles sous la phalange du percute. Rien à faire, mais la boxe, c'est pas mon truc. Jamais de la boxe comme je avec mes enfants. Aïe, j'ai souffert cette tourelle sous ma nuque. Ce combat, quel enfer. Je crois que la boxe, c'est pas mon truc. J'ai vu quelques étoiles sous la phalange du percute. Rien à faire, mais la boxe, c'est pas mon truc. La 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 la.
Nous arrivons à la fin de cette émission des Cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître, ni publicité ni nationalisme de la Fédération anarchiste. Et je n'avais pas annoncé en début d'émission ce livre parce que je n'étais pas sûre d'avoir le temps entre la compile Mon Petit Loup et Le Petit Loup du Jazz. On a largement le temps. Eh bien, voici un livre poli, pas poli, d'Elisabeth Brami, illustré par Marie Paruit. Et ça, c'est un documentaire, ça n'est pas un album de fiction.
Je veux dire quelque chose.
Oui, vas-y.
En gros, là, ce livre, c'est pas un livre en mode c'est une histoire. Oui, c'est, comme elle a dit, c'est vraiment un documentaire. Et donc, en gros, il y aura une page. En fait, il y aura une page où, par exemple, une double. Non, en fait, dans une double page, il y aura une page où c'est une personne qui n'est pas polie et une page où c'est quelqu'un de poli. Et par exemple, il y en a, c'est ranger ses affaires. Et après, il y a pas poli et dans l'autre page, il y a poli.
Alors, il y a chaque double page a un thème. Voilà. Alors, c'est le super livre sur la politesse. C'est paru chez Casterman. Je sais pas, ça vaut 15 euros. Voici la quatrième de couverture. Pas facile d'être poli quand on est encore petit et qu'on n'a pas encore appris que pas poli, c'est pas joli. On agace papa et papy, on énerve maman et mamie, et à l'école on fâche les amis. C'est pas une vie, tous ces ennuis. Mais si on lit poli pas poli, promis, fini les soucis et vive la vie. Alors, ce livre est paru en avril 2025. En fait, là, il y en a qui me diraient, vous inculquez la politesse bourgeoise aux enfants. J'ai déjà entendu ce genre de truc. Mais non, c'est vraiment pour vivre ensemble et pour vivre ensemble et puis de façon pacifique et puis pour désamorcer les agressivités et pour quand on dit bonjour, merci, au revoir, eh bien on a le sourire plus facilement que d'avoir envie de boxer la personne en face de soi.
Donc, bah tiens, c'était le thème de la chanson d'avant d'ailleurs.
Bah oui. Oui, c'est pour ça que je pense à ça. Donc, qui est, avant de lire les deux doubles pages, qui est Elisabeth Bramy, l'autrice, c'est une psychologue. Elle a écrit ça parce que la politesse est une thématique indispensable aux parents en demande. Elle est engagée dans la cause des enfants, des parents et des grands-parents, Elisabeth Bramy. Elle a écrit... aussi en littérature générale et intervient sur la lecture et l'éducation. Elle a écrit beaucoup d'albums et l'illustratrice vient de Toulouse et elle est diplômée des arts plastiques à Toulouse et puis d'une école à Bruxelles et elle a beaucoup illustré de livres jeunesse. Bon, je m'arrête là. Alors, toi, tu as choisi le thème
« Ranger ses affaires ».
Attends, avance-toi parce que je crois qu'on est... Voilà, on s'avance un petit peu. Donc,
c'est qui lit ?
Qu'est-ce que tu préfères, lire c'est pas poli ou lire poli ?
Allez, pas poli.
Allez, vas-y.
Miss pas poli met tout en l'air. Elle ne range jamais ses affaires. Sort ses habits de son armoire, encombre de jouets dans le couloir. Elle aime envahir le salon avec ses poupées, ses crayons. Sa dinette salit la moquette, elle s'en moque, n'en fait qu'à sa tête. Et là, donc, on voit elle, Miss Papoli, et sa maman qui... et waouh. Et elle dit, moi, ça me dérange de ranger.
Pour ranger, Poli est très fort. Si on l'aide, il fait un effort, met les cubes dans la boîte du haut et dans celle du bas, ses autos. Ses jeux restent neufs plus longtemps. Il les retrouve facilement, puis l'aspirateur glouton n'avale plus ses pulses et ses pions. Avec nous, le ménage, ça déménage. Hein, papa ? En fait, c'est aussi pour lui que c'est plus facile de ranger, mais l'enfant à côté de moi m'a dit tout à l'heure que c'était vraiment terrible de devoir ranger, qu'il aimait vraiment
c'est
pas ça.
C'est qu'en fait, surtout quand on a, par exemple, 10 ans, ou même quand on est plus vieux, ou quand en fait tous les âges d'être un enfant, il y a la chambre, c'est vraiment
c'est son univers personnel.
On prend un livre et on pense même plus à le ranger. On le pose là parce qu'on se dit réelle excuse pour dire à sa mère, à sa mère ou à son père, c'est de dire oui, mais après je vais continuer de lire après la douche ou des trucs comme ça. Mais non, il faut ranger, entre-temps.
Voilà, bon, alors avant de continuer, une autre double page qui a été choisie par moi et qui s'appelle « À table », eh bien, nous allons continuer avec le numéro 14 des petits loups, de la compilation « Mon petit loup », contre les violences sexuelles faites aux enfants. Et là, c'est Marmouset. Où est-ce que j'ai mis le disque ? Ah oui, c'est Donita qui chante Marmouset.
sur Radio Libertaire, dans des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter.
Gamin aux grands yeux tristes, petite fille de 8 ans, tendre chair à touriste, vendue au plus offrant.
Libertaire, cette chanson est vraiment tragique sur les enfants mis en esclavage de la prostitution dans les pays exotiques ou pas d'ailleurs. C'est donc dans le CD de promotion de la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, la compilation Mon Petit Loup du label Irfan. Et là, c'était donc Donita Marmouset. Nous reprenons dans des cailloux dans l'engrenage sur Radio Libertaire, le livre d'Elisabeth Brami, illustré par Marie Parhuit, Poli pas poli, le super livre de la politesse, édité chez Casterman en 2025 et qui vaut 15 euros.
Donc là, c'est à table. Donc, quand pas poli se met à table, il se tient comme une étable.
Comme dans une étable.
Comme dans une étable. Pas gêné, il fonce sur les plats, mange salement avec ses doigts, les essuie sur n'importe quoi, fait des bruits et laisse tout cracra. Il se croit vraiment seul au monde et il s'énerve si on le gronde. Et là, on le voit en train de lécher l'assiette et en train de dire « encore, encore ».
Quand Miss Papoli s'assoit à table...
Non, Miss Poli.
Miss Poli, oui, pardon. Oui, tu as raison. Miss Poli s'assoit à table. Ses mains, bien sûr, sont impeccables. Elle déplie en grand sa serviette, évite de semer des miettes. Lorsque c'est son tour, elle se sert. Ne se jette pas sur le dessert. Mange toujours la bouche fermée et parle quand elle a avalé. Merci, c'était délicieux. Alors, je voudrais rajouter quelque chose, que c'est vrai que c'est plus agréable aussi pour les voisins qui sont à côté ou en face, mais c'est aussi plus agréable pour la personne qui nettoie après, que ça soit chez soi ou ailleurs. C'est la boniche, l'esclave qui nettoie chez Papoli. Voilà, encore un morceau. Donc, c'est pas de la politesse bourgeoise, c'est pour répondre à... J'ai déjà entendu ça. Un dernier morceau, je ne sais pas si on aura le temps d'un autre. Mélan Le Loup, c'est le numéro 17 du label Irfan. Allez, on y va.
C'est parti.
Terré dans cette pièce, terré dans cette pièce où je me cache. Je suis prise au piège, surtout je suis prise au piège, surtout quand je me lave. Je ne suis pas libre, sous, je ne suis pas libre, sous ce regard. Et sur le qui-vive, très bien quitté sous cet œil tout. Je le vois loup, voyez le loup. Papa, fallait papa venir trop près de moi. Maintenant je sais plus très bien quitté sous cet œil tout. Je sais que le loup n'est plus dans la forêt. Regardons mes plaies.
Voilà, c'était Mélan, je ne sais pas comment on dit, Maï ou Mélan, Le Loup. Ce sont des chansons assez dures, assez poignantes, qui n'ont rien à voir avec le livre Polypapoli d'Elisabeth Brami chez Casterman. Et il y a une chose aussi que j'apprécie sur ce livre, c'est que Papoli, c'est alternativement une fille et un garçon, et Polly, c'est alternativement une fille et un garçon. Miss Papoli va aux toilettes. Elle ne nettoie pas la cuvette. Elle ne rabat pas la lunette. Elle gaspille le papier et l'eau. Laisse allumer tout crado. Vite un pipi, mais après, tant pis.
Donc là, on rappelle que c'est aux toilettes.
Oui.
Monsieur Polly sort des toilettes. Il vérifie si tout est net. Remet en place la balayette. Tire la chasse et se lave les mains. Ferme la porte et puis éteint. Impec.
Voilà, c'était le dernier titre qui était choisi par l'enfant. Je pense qu'on
Je rappelle juste...
Vas-y.
Que, enfin, non, mais là, ça n'a pas rien à voir sur le livre. C'est que il est 15h53 et du coup que... Bah, ça termine dans 7 minutes.
Eh oui, alors nous allons... Du coup, dernier titre musical.
C'est juste pour prévenir.
Voilà, oui, c'est un dernier titre musical. On va le numéro 15.
Numéro 15.
Mamselle Prune et Kamal Lam, le monde tournerait.
Ah, tiens,
encore.
Mamselle Prune, je crois que je connais. 3, 2, 1.
Prise au piège dans ses souvenirs. Elle s'oublie d'heure en heure.
Corps et cœur, je l'ai même en été. Elle voudrait ne plus jamais avoir peur.
Réapprendre à grandir.
Laisser ses rêves peu à peu revenir.
Puis dans un long soupir,
elle me dit:
crois-moi, le monde tournerait encore. Seulement je pouvais retrouver mon enfance.
Car tout n'est qu'illusion.
Autour de nous s'élèvent des cloisons.
Il n'y a plus de nuances.
J'ai perdu mon innocence.
Elle a beau chercher comment fuir son passé, leurs erreurs.
Pieds, mains liés, enfermés. Elle voudrait ne plus jamais avoir peur.
Réentendre un sourire.
Laisser ses larmes peu à peu s'abstenir.
Puis dans un long soupir,
elle me dit:
crois-moi, le monde tournerait encore. Si seulement je pouvais retrouver mon enfance.
Car tout n'est qu'illusion.
Autour de nous s'élèvent des cloisons.
Il n'y a plus de nuances.
J'ai perdu mon innocence.
Seule, elle se sent seule. T'es un oiseau en cage.
Enfin, elle voudrait enfin pouvoir tourner la page.
Dans ses écrits,
des nuages.
Sa vie,
des cicatrices.
Son destin,
des orages.
Crois-moi, le monde tournerait encore. Si seulement je pouvais retrouver mon enfance.
Car tout n'est qu'illusion.
Autour de nous s'élèvent des cloisons.
Il n'y a plus de nuances.
J'ai perdu mon innocence.
Crois-moi, le monde tournerait encore.
Si seulement je pouvais retrouver. Autour de nous s'élèvent des cloisons.
Il n'y a plus de nuances.
J'ai perdu mon innocence.
Oui, elle est belle. C'est terminé, des cailloux dans l'engrenage, l'enforce poil à gratter. La prochaine émission que j'animerai, ce sera le 2 juillet à 12h30, la sixième émission de compositrice autour de Florence Price, qui était la première, au début du XXe siècle, la première compositrice et musicienne classique noire américaine. Ensuite, il y aura la 105e émission de Flemmardise autour du blues, avec un CD de Nina Simone, mais pas seulement le blues des femmes noires. Un très beau livre, et il y aura des disques. Je n'en dis pas plus.
Et moi, je vous dis au revoir.
Et bien maintenant, l'indicatif et qui suivra, le Club Ferré. Au revoir.
Au revoir.
Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes. Elles lavent et le désarment ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs arrosées. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages. Ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière.